Le printemps se fait sentir et on le voit sur le sourire béat des libraires montalbanais qui sont réunis encore une fois comme chaque premier mardi du mois pour l'émission Les Voix de l'Alma. Bonjour messieurs dames.
Bonjour. Bonjour.
Hugues Dedi, bonjour.
Bonjour.
Philippe Bernadou de la librairie de Loges, bonjour.
Bonjour.
Jacques Griffaud de Place Nouvelle.
Bonjour.
Et Caroline Berthelot de La Femme Renard, bonjour.
Bonjour.
L'auteur du mois, c'est Félix Fénéon, et c'est vous qui nous le présentez, Hugues.
Oui, tout à fait. C'est pas tout à fait un auteur, mais en même temps, c'est un auteur. Et il a influencé énormément d'autres auteurs. Jean Paulhan écrit de lui, il est un homme qui préfère en 1883 Rimbaud à tous les poètes de son temps, défend dès 1884 Verlaine, Charles Cros, Jarry et par-dessus tout Mallarmé, découvre un peu plus tard Seurat, Gauguin, Cézanne, Van Gogh, appelle à la revue Blanche qu'il dirige de 1895 à 1903 André Gide, Marcel Proust, Apollinaire, Claudel, Jules Renard, Peggy, Bonnard, Debussy, Roussel, Matisse, puis à la Sirène en 1919, pardon, Joyce, Max Jacob. Nous n'avons peut-être eu qu'un seul en 100 ans, qu'un seul critique, et c'est Félix Fénéon. Fin de citation. Effectivement, rien, absolument rien ne fit la postérité de Félix Fénéon, ni son anarchisme vigoureux, ni son rôle de chef de file des symbolistes, ni ses critiques littéraires, ni le brillant propagandiste de l'impressionnisme, ni le découvreur de talent, encore moins l'écrivain. Et pourtant, en 1906, il est engagé au Matin, un journal très conservateur, pour rédiger les faits divers nationaux en un nombre limité de caractères, un peu comme un tweet, sous le titre « Nouvelle en trois lignes ». Le terme « nouvelle » prend ici un sens, un double sens, celui d'information récente et également celui de petite chronique littéraire, tant Félix Fénéon les cisèle avec le talent d'un grand styliste et d'un poète. Dans ses nouvelles, il infuse, mine de rien, ce qui le répugne, n'oublions pas que c'est un anarchiste avant tout, c'est-à-dire l'armée, l'église, les patrons, les politiques, sans que les dirigeants du Matin, pourtant à droite bien affirmés, sans que les dirigeants du Matin, donc, ni les lecteurs, s'aperçoivent de la subvention qui glisse dans le journal. Alors, quelques exemples. Le conseil municipal de Brest a émis le vœu que soit supprimée la revue du 14 juillet. Elle harasse les soldats. Fortement escorté de dévots, le maire de Longchanal, en Isère, a replacé à l'école le crucifix ôté par l'instituteur, etc. Fénéon, en rapportant les accidents, les suicides plus ou moins ratés, les drames, les catastrophes, dresse en fin de compte les syndromes d'une société malade qui n'a rien à envier à la nôtre, particulièrement criminogène et anxiogène. Exemple, le feu 126 boulevard Voltaire. Un caporal fut blessé, deux lieutenants reçurent sur la tête l'un une poutre, l'autre un pompier. Jugeant sa fille 19 ans trop peu austère, l'horloger stéphanois Jalla l'a tué. Il est vrai qu'il lui reste 11 autres enfants. Au lieu des 175 000 francs dans la caisse de réserve de dépôt chez le receveur des contributions directes de Souze, rien. Enfin, Fénéon fait preuve d'un humour impitoyable, forcément noir, qui frappe au détour d'une brève ignoble. Par exemple, c'est au Cochonnet que l'apoplexie a terrassé Monsieur André, 75 ans, de Levallois. Sa boule roulait encore, qu'il n'était déjà plus. La machine à battre happa Madame Pessavi, de Mercy-le-Haut. On démonta celle-là pour dégager celle-ci. Morte. Zoho de Vincennes la nuit passée. Pour un cadeau original, Monsieur Henri visite les lionceaux. Reste une main munie d'une chevalière. Sous son apparente banalité, l'œuvre de Fénéon recèle de trésors littéraires d'une grande virtuosité stylistique et qui tient en un livre, un seul, unique, à picorer, idéal pour le train ou le trône. Donc pour le découvrir, vous pouvez lire Les Nouvelles en trois lignes de Félix Fénéon, c'est édité chez 100 pages. Si vous voulez aller un peu plus loin, il y a Félix Fénéon ou les critiques de Jean Pohan, aux éditions Pohan justement. Et puis, si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez lire Félix Fénéon, Art et anarchie dans le Paris fin de siècle. C'est aux éditions Gallimard. Et là, ce livre est épuisé, mais vous le trouverez chez les bouquinistes.
Merci Hugues Dedy, vous écoutez CFM, c'est les voix de l'Alma et notre premier coup de cœur nous est présenté par Jacques Griffo. Il s'agit d'un petit oiseau.
Oui, enfin il s'agit de petits oiseaux puisque ça s'appelle Yellow Birds avec un S au pluriel et ils ont gardé en français, on a gardé le même titre que celui du roman américain. C'est un premier roman qui est très très bien accueilli aux États-Unis. Il a été finaliste du National Book Award. Les critiques ont dit en particulier premier roman puissant et émouvant, essentiel à lire absolument, sobre et envoûtant, dévastateur. Je précise qu'il ne s'agit pas d'un roman autobiographique, même si l'auteur, Kevin Powers, qui est né en Virginie, qui est diplômé en littérature, s'est enrôlé volontairement dans l'armée et a combattu en Irak en 2004 et 2005. Dans une interview, il a dit: ce que j'ai mis de moi dans ce roman, ce sont des obsessions, des impressions, des sentiments. J'essaie de dire ce que cela fait d'être là-bas, ce que l'on ressent. Ce qu'il y a de passionnant dans ce roman, c'est qu'il parle de la guerre avant, pendant et après. Avant, pourquoi John Bartle va-t-il s'engager pour 3 ans dans l'armée, lui qui, au lycée, se faisait bousculer par les autres et traiter de pédé parce qu'il aimait lire des livres et parfois même de la poésie. À l'armée, il va rencontrer un garçon trop sensible et trop naïf pour être soldat, un certain Daniel Murphy, Murph qu'il appellera, plus jeune que lui, 18 ans, alors que lui a 21 ans. Il se lie d'amitié avec lui. Il se lie d'amitié à tel point d'ailleurs que lors de la journée où les familles sont invitées à venir voir les soldats qui vont partir quelques jours après pour l'Irak, John ira jusqu'à promettre à la mère de son nouveau copain, ce jeune Murph, qu'il le ramènera à la maison. Sans vraiment penser ce qu'il disait sur le moment. Le sergent Sterling, son officier supérieur direct, qui entend ça est furieux. « Tu fais des putains de promesses maintenant ?» Il le jette à terre et le frappe 2 fois au visage, sous l'œil et en pleine bouche. David Murphy ne reviendra pas, on le sait très vite, dès le début du roman. Il mourra en Irak, leur amitié aura duré 8 mois. Alors pendant la guerre, eh bien ça se passe à Al-Tafar, c'est à l'extrême nord de l'Irak. Ils sont épuisés, trop fatigués, on entend les bruits, les lumières, les odeurs, les eaux usées au-dessus de tout, la pestilence et la pourriture des cadavres. Le colonel avant une attaque qui leur dit « Nous vous demandons au nom du bien de livrer une bataille d'une rare violence. Certains d'entre vous ne rentreront pas avec nous. Faites-leur vivre en enfer, l'Amérique compte sur vous. Vous n'aurez peut-être jamais l'occasion de faire quelque chose d'aussi important de votre vie, dans toute votre vie. » Les scènes de guerre sont violentes, des cruautés inimaginables, infligées tant aux combattants qu'aux civils. Après, c'est juste l'immédiat après, en Allemagne, avant d'être rapatrié un soir, alors qu'il n'a pas de permission, Bartle échoue dans un bar à filles où il va retrouver le sergent Sterling, ivre, qui brutalise une fille, et ils vont parler de Murphy, un vif dialogue s'engage. On sait ce qui s'est passé, on est lié par ça. Je te tiens, soldat Bartle, je t'envoie en cour martial quand ça me chante. À quoi Bartle répond, je pourrais vous dénoncer aussi, c'est vous qui commandiez, vous vous souvenez. Bartle rentre aux États-Unis et est démobilisé. Le retour à la vie civile, des jours à dormir, des semaines à éviter de rencontrer quiconque. Ce retour s'avère un calvaire avec entre autres la mémoire qui tourne en rond. Tout le monde qu'il traite de héros alors qu'il considère que tout ce qu'il a fait c'est simplement de survivre et que celui qu'il avait promis de protéger est mort, lui. Il restera hanté et brisé par cette promesse non tenue.
Et ça s'appelle Yellow Birds de...
Kevin Powers, c'est publié chez Stock dans la collection La Cosmopolite.
Merci Jacques Griffo. Autre coup de cœur dans les voix de l'Alma, avec vous Philippe Bernadou.
Alain Mabankou, Lumière de Pointe Noire. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, Alain Mabankou est un écrivain de langue française, né au Gabon et professeur de littérature française aux États-Unis. Lumière de Pointe Noire, si j'ai bien compté, c'est son 20e livre et certainement celui qui est le plus personnel. Il y raconte son retour au Gabon, invité par l'Institut français de Pointe-Noire, donc sa ville natale, son port natal. Il n'y est pas retourné depuis 23 ans, depuis qu'il est parti faire des études en France, et entre-temps, sa mère et son père adoptifs sont morts. Et c'est donc triplement en porte-à-faux qu'il y retourne. Mauvais fils, quand on sait l'importance de la famille et des liens familiaux en Afrique, D'ailleurs, sa famille, venue de la campagne, a colonisé une rue de Pointe-Noire et obtenu qu'on lui donne le nom de leur village d'origine, rue de Louboulou. En second lieu, il revient en tant qu'exilé, et peut-être ceux qui sont restés parleraient plutôt de déserteurs, double exilé en France et en Amérique. Et pire que tout, si je peux dire, en tant qu'exilé qui a réussi. Chacune des personnes qu'il rencontre est l'occasion de ressusciter un pan de son passé, d'avancer à rebrousse enfance vers ce qui le constitue et qui nourrit ses précédents romans. Ce récit est d'autant plus émouvant que, loin de son style bariolé habituel, Alain Mabankou l'a écrit dans une langue retenue, épurée, ce qui rend notamment encore plus forte l'évocation du surnaturel, ou plutôt de l'animisme, qui baigne ce monde d'autrefois et celui d'à présent tout autant. Je voudrais lire la phrase que lui dit sa mère au moment où il part donc en France et qui sous-tend le roman et qui est une belle leçon. Elle baissa la vitre. « Deviens celui que tu voudras devenir et garde ceci en mémoire. L'eau chaude n'oublie jamais qu'elle a été froide. » Alain Mabankou, Lumière de Pointe-Noire, dans la collection Fiction et Compagnie au Seuil.
Merci Philippe Bernadou. Votre coup de cœur, Caroline Berthelot, va pour un livre d'Hubert Haddad.
Oui, tout à fait. Et ça s'appelle « Le peintre d'éventail ». Depuis près de 20 ans, Hubert Haddad publie chez Zulma des livres étonnants, que ce soit des essais, des recueils de nouvelles, de la poésie ou bien des romans, comme pour Le peintre d'éventail. On lui doit notamment deux formidables magazines d'écriture et surtout les romans Palestine et Opium Poppy qui ont marqué nombre de lecteurs montalbanais. Les livres se suivent chez Hubert Haddad, mais voilà, ils ne se ressemblent pas. Chacun a son univers propre et nous fait découvrir un monde, une culture et des personnages atypiques. Avec Le peintre d'éventail, c'est à la découverte du Japon qu'Haddad nous convie cette année. Et quel Japon ! Le peintre d'éventail, c'est l'histoire de Matabei, qui choisit de se retirer pour échapper à la fureur du monde au fin fond de la contrée d'Atora, dans un endroit perdu entre montagnes et pacifiques. C'est l'histoire de Damison, étrange et fascinante femme qui tient une drôle de pension toute paisible au bas de la première montagne. C'est l'histoire de tous les habitués et pensionnaires de la pension de Dame Ison, de leurs habitudes, de leurs secrets. C'est l'histoire du jardin magnifique qui jouxte cette pension, de l'agencement de chacune de ses pierres et des plantes de ce jardin, mais aussi des secrets qu'il y cache. C'est l'histoire surtout de l'homme qui agence ce jardin et qui en est le gardien, Ozaki, jardinier certes, mais peintre d'éventail la nuit. De la rencontre entre Matabei et Ozaki autour de cet art singulier, jusqu'au plus incroyable des coups de théâtre qui soient, je ne vous dirai rien, ou presque, tant ce serait gâché le labyrinthe fabuleux qu'a construit Hubert Haddad en 185 pages. Un labyrinthe de poésie et de grâce, au rythme des haïkus, une petite pépite de plus dans l'œuvre d'Hubert Haddad au pays des pierres qui parlent. Je ne peux que vous inviter à rencontrer à votre tour Ozaki et Matabei Reyen, amateurs de haïkus et de jardins. C'est une merveille de lecture et le dépaysement est assuré. À noter la parution simultanée des haïkus du peintre d'éventail chez Zulma. La couverture est ravissante, et ce qui ne gâche rien. Et puisque l'envol est un thème dont on risque de vous reparler en avril, nous, libraires de l'Alma, je vous glisse pour finir ce petit haïku de saison. Prendre son envol à l'heure des migrations, peindre une plume.
Merci Caroline Berthelot, le peintre d'éventail d'Hubert Haddad. Hugues Dedi, quel est votre coup de cœur ?
La drôle de vie de Bibo Bradley. Est-ce que t'es prêt à prendre dans la gueule une grande claque ? Alors va donc lire ce roman où Bibo Bradley himself raconte sa putain de vie de merde. Elle commence dans un village paumé des US. Il connaît pas son père, sa mère non plus, ou alors elle hésite entre une bonne demi-douzaine de types. Au début, sa mère l'habillait en fille. Oh, qu'il ait une bite, elle en avait rien à foutre. Elle voulait une fille, elle l'habillait en fille, point barre. Puis quand elle a eu une fille pour de vrai, elle l'a, comme qui dirait, abandonnée à son grand-père et ses potes poivreaux. Et c'est là que Bibo grandit au milieu de tous ces tocards qui fréquentent le bar du grand-père, qu'applaudissent des deux mains ce héros de McCarthy, enculé de coco qui bousille la jeunesse. Enfin, quand à la télé passe le premier concours de Miss America, les filles étaient tellement presque à poil qu'une armée de soviets aurait pu bombarder le bar. Personne s'en serait sorti. À 16 ans, les potes du grand-père s'assurent que Bibo n'est pas pédé. On l'emmène aux putes. À 18, Pendant que la télé diffuse les bombardements du Vietnam, le grand-père, vétéran de 45, tape l'épaule de Bibot. « Ça, c'est ta guerre, mon petit !» qui lui dit. À 19, Bibot est dans un bateau grand comme un immeuble couché, direction le Vietnam. Tous les gars sont des pauvres types tellement que c'est moins chiant de se faire chier que de leur parler. Et c'est là que Bibot tourne vraiment psycho. Eh bien oui, ce roman jeunesse est vraiment génial. On y parle de drogue, de Woodstock, de redneck, de guerre, de folie, car tout ça, ça fait partie de la vie. Oui, ce livre est génial, car avec son ton cru, son humour caustique, il présente une sorte d'anti-vampire pleurnichard, d'anti-fantaisie conventionnelle, presque d'anti-littérature. Un roman absolument délirant, pour tous ceux qui ne craignent pas de pointer le curseur sur second degré. Ça s'appelle « La drôle de ville » de Bibro Batelet, c'est signé Axel Sandre, et c'est dispo aux éditions Sarbacane.
Ou comment enrichir son vocabulaire. Merci, Hugues Dedi. Jacques Griffaud, s'il vous plaît, un autre coup de cœur.
Oui, le roman du mariage est un livre de Geoffrey Eugénides. Alors, Geoffrey Eugénides, c'est un auteur qui est né à Détroit en 1960, ce qui n'est pas, vous verrez, c'est relativement important ensuite. Il a publié son premier livre, c'était Virgin Suicide, en 95, qui a connu un grand succès, qui a été adapté au cinéma par Sofia Coppola. Et moi, mon grand coup de cœur, c'était Middlesex en 2003, qui est disponible maintenant en format de poche et qui a obtenu le prix Pulitzer. Mais 10 ans après Middlesex, donc c'est pas un auteur qui écrit 10 livres par an, voici le nouveau roman très attendu de Eugénides. C'est une histoire très classique, puisque c'est un triangle amoureux, une fille, deux garçons qui se rencontrent à l'université de Brown au début des années 80, et c'est une période que Eugénides connaît bien, puisqu'il a été lui aussi étudiant aux années au début des années 80. Madeleine aime Léonard, Michel aime Madeleine. Le roman commence le jour de la remise des diplômes, au moment justement où ces trois personnages vont quitter l'université, ils quittent l'adolescence, ils quittent leur famille pour entrer dans l'âge adulte. Et le roman s'achèvera environ une année plus tard. Madeleine, 22 ans, est fille de parents aisés. Elle a suivi un cours sur la littérature réaliste du 19e siècle. Donc Jane Austen, Eliot, James, qui est complètement tombée en désuétude à cette période où la plupart des étudiants s'entichent et se passionnent pour Derrida, Barthès et la déconstruction des textes. Léonard est un peu rusto et macho, un rien instable. Il est doctorant en biologie, il est très porté sur la philosophie. Michel, lui, au physique ingrat, pardon, étudie la théologie, et il est fou de Madeleine, qui lui préfère Léonard. Ce qui rend le roman passionnant, c'est l'épaisseur que l'auteur donne au personnage. Tous les trois ont une personnalité complexe et attachante. Et l'auteur sait aussi nous captiver, avec une intrigue encore une fois classique, mais aux multiples péripéties. Selon le professeur Sanders, qui est celui dont Madeleine suit le cours, à l'époque où la réussite sociale reposait sur le mariage, et où le mariage reposait sur l'argent, les romanciers tenaient un vrai sujet d'écriture. Les grandes épopées étaient consacrées à la guerre et les romans au mariage. L'égalité des sexes, une bonne chose pour les femmes, s'est révélée désastreuse pour le roman et le divorce lui a certainement donné son coup de grâce. Voilà ce que dit le professeur Sanders. Eh bien, Eugénides prouve le contraire en réussissant parfaitement son pari d'écrire un livre contemporain utilisant cette intrigue centrale et passionnante du roman anglais traditionnel, le mariage.
Merci Jacques Griffaud, le roman du mariage. On arrive à la mi-temps de cette émission. Je vous rappelle cette émission, c'est l'émission des libraires montalbanais. Ça s'appelle Les Voix de l'Alma, c'est diffusé tous les premiers mardis du mois. Puis après c'est en podcast sur cfmradio.fr. Et évidemment, toutes les actualités des libraires se trouvent sur leur site internet librairiemontauban.fr. Au pluriel, la lecture du mois, c'est encore une fois Philippe Bernadou qui nous la propose et elle est d'actualité.
Eh bien oui, vous disiez c'est le printemps et c'est le printemps des poètes aussi à partir du 9 mars, du 9 au 24. Et Michel Baglin sera l'invité de l'association Confluence, nous en reparlerons tout à l'heure. J'ai choisi un extrait de Chair et de mots qui est une anthologie personnelle de ses précédents recueils. Extrait donc d'un texte qui s'appelle « L'alcool des vents ». Je rends grâce aux nuits qui n'ont plus d'heure, aux nuits que l'on pousse à force de cigarettes et d'alcool, jusqu'au cœur chaviré, aux confessions bêtes, au bégaiement de l'innocence retrouvée, quand le monde comme il va ne saurait plus nous aller, quand la langue chargée de régler les additions bafouille l'humanité avec des mots qui penchent. Je rends donc grâce à ces riens qu'on appelle escales, qui furent des haltes, des bivouacs, et resteront fragments, qui argumente quand même en faveur d'un feu latent, d'une traînée de poudre, d'un fil aussi ténu que corde sensible. À cette ivresse qui persiste quand tout déchante et dont je ne connais pas la cause, qui vient de la mer sans doute, de très loin par le sang, la rime, l'obscur vertige, et que je nomme l'alcool des vents, faute de mieux. Je rends grâce à des inconnus, des disparus, des anonymes, mes héros clandestins pour un mot, un geste, la larme à l'œil qui ne rachète rien sans doute, mais fait les lendemains moins froids. À celui qu'on vit dans l'assemblée nazie, rester les bras croisés quand les autres saluaient. Au maire qui n'inscrivit que son nom sur la liste des otages à fusiller. À la vieille, qui toujours tend du pain aux prisonniers, malgré les soldats et leurs crosses sur ses côtes. Aux pacifistes en temps de guerre, même s'ils se trompaient. À tous ceux qui un jour se sont risqués en découvrant qu'une vie, fût-elle la leur, fussent-ils naïfs, n'est pas seulement une histoire privée. Je rends grâce en somme à des hommes de craie. L'averse les efface. Mais qu'ils aient malmené nos drapeaux, même en berne, saboté nos trains de survie, et je les remercie. Leurs refus auront peut-être permis d'y voir plus clair, agrandi le champ de quelques mots. Ils n'auront écrit dans l'histoire aucune page, à peine laissé quelques graffitis, mais quand même cherché le plus grand langage. De chair et de mots de Michel Baglin, publié au Castor Astral.
Merci Philippe Bernadou. Alors les actualités des libraires à Montauban, ça commence par une expo Faubourg La Capelle, Caroline Berthelot.
Oui, une exposition de photographie, une fois n'est pas coutume, autour d'un ouvrage de Patrick Battard et Michel Françoise, un ouvrage qui s'appelle « Entre le cœur et l'écorce » aux éditions Mots et Regards.
Voilà, et c'est à la femme Renard, bien évidemment. Le 12 mars, Philippe Bernadou.
Nous en parlions à l'instant, à la mémo de la nouvelle médiathèque de Montauban, rencontre avec Michel Baglin, le 12 mars 2013 à 18h. Il y aura d'abord la remise du prix du concours qu'a organisé l'association Confluence, et ensuite donc une rencontre avec Michel Baglin et ses poèmes lus par Maurice Petit.
Encore des rencontres le lendemain à la Femme Renard.
Oui, mercredi 13 mars, donc, dans un premier temps à 17h30 à la Femme Renard, conférence de Jacques Caral, donc président de la MOPA 82, autour de son édition critique de Didon de Lefranc de Pompignan. Puis, mercredi 13 mars, mais à 19h cette fois-ci, toujours à la Femme Renard, rencontre avec Pierre Patrolin. L'an dernier, j'avais lu un extrait de La traversée de la France à la nage, et là, il récidive avec son nouveau roman, Montée des cendres, aux éditions Paul.
Le lendemain, le 14 mars, Jacques Griffaut, vous serez à la mémo.
Oui, à la mémo, c'est la médiathèque de Montauban, parce que dans le cadre des 7e journée en âme de Gouge, on m'a demandé d'animer un café littéraire qui s'appellera trois auteurs et une femme soldat. Alors, il y aura Moray Sauvage pour Guerrière à la rencontre du sexe fort, Philippine Arnal pour Femme d'exception au Midi-Pyrénées, Bernard Clément pour un roman, La Demoiselle de Saint-Malo, et il y aura Nolwenn Le Bourlou qui est lieutenant au 17e RGP de Montauban.
Donc ça, ce sera le 14. Le 16, Philippe Bernadou, pas moins de deux rencontres pour vous.
Oui, le matin de 10h30 à 12h30, c'est une dédicace dans le cadre toujours du Printemps des Poètes. Claudine Thibou-Pivert dédicacera ses ouvrages.
Donc à la librairie de Loche.
De poésie à la librairie de Loche. Et à 18h au Théâtre Olympe de Gouges, dans le cadre des Journées Olympe de Gouges, rencontre avec Jean-Claude Bouillon-Bacquer, qui est le fils de Joséphine Bacquer, et qui a écrit un livre qui s'appelle Un château sur la lune, le rêve brisé de Joséphine Bacquer, aux éditions Hors Collection.
Ensuite, le 19 mars, on tourne la page de l'expo Battard, et c'est une nouvelle expo à la Femme Renard.
Oui, c'est une exposition toujours autour d'un livre, mais cette fois-ci autour d'un album jeunesse. L'exposition des planches d'Antonin Louchard, extraite de son album « Je suis » aux éditions Thierry Magnier.
Et puis une rencontre.
Oui, une rencontre à la Femme Renard. C'est la première rencontre avec donc les auteurs sélectionnés pour le prix de la nouvelle de la Femme Renard, Lozère 2013, dans le cadre de Place aux Nouvelles. C'est Isabelle Kaufmann pour son livre « Cabaret sauvage » qui a été publié au Passage.
La compagnie des écrivains du Tarn-et-Garonne se réunit ce mois-ci chez Deloche.
Oui, la lecture mensuelle aura lieu le 20 mars. Il s'agit de Colette Lemieux qui présente Élie Guy de Maupassant.
Le 22, il y a une conférence au théâtre.
Au théâtre Olympe de Gouges, dans le cadre du festival Passion Baroque. C'est Alain Guédé, auteur de deux livres, un pour adultes, un pour enfants, sur le chevalier de Saint-Georges, le Mozart antillais.
Le 25, Caroline?
Le 25, de 17h30 à 19h30 à la librairie. Rencontre avec l'auteur de romans pour enfants et pour ados, Christophe Lambert. Une rencontre en association avec Réel, en avant-première du Salon Jeunesse qui aura lieu en mai.
Et le 26?
Et le 26, à 19h, une soirée spectacle un petit peu particulière avec Nicolas Rouillet, auteur donc d'un roman policier, Le Samovar. Il viendra avec un musicien et une slameuse pour présenter son roman, une présentation un peu extraordinaire.
Et la dernière rencontre du mois pour les libraires, ce sera chez Deloche.
Le jeudi 28 mars, à 17h, nous recevons Anne Lasservergne, qui présentera et dédicacera son recueil de nouvelles « Marie, Médée, Jocaste et les autres, il y aura du monde » aux éditions de L'Harmattan.
Voilà, comme quoi le printemps, c'est propice aux actualités littéraires, il y en a à foison. Je vous propose pour terminer de faire un petit tour de table pour représenter les titres, peut-être les éditeurs des ouvrages que vous nous avez proposés aujourd'hui, Jacques.
Yellow Birds de Kevin Powers, qui est publié à la Cosmopolite chez Stock. Et le roman du mariage de Jeffrey Eugenides, publié à l'Olivier.
Caroline Berthelot.
Le peintre d'éventail et les haïkus du peintre d'éventail, aux éditions Zulma. L'auteur, c'était Hubert Haddad.
Hugues Denis.
Alors moi, je vous ai parlé des nouvelles en trois lignes de Félix Fénéon, disponible à l'éditeur 100 pages. Et puis, un roman jeunesse qui s'appelle La drôle de vie de Bibo Bradley, écrit par Axel Sandre, et c'est chez Sarbacane.
Enfin, Philippe Bernadou.
Le coup de cœur pour Alain Mabankou, Lumière de Pointe-Noire aux éditions Seuil. Et la lecture était tirée de Deux chairs et deux mots, de Michel Baglin aux éditions Le Castor Astral.
Eh ben voilà, c'était l'édition du mois de mars des Voix de l'Alma. Je vous donne rendez-vous en avril. Ce sera le 1er avril. Il y aura peut-être des blagues.
Au mois prochain.
Au revoir.
Au revoir.